Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des hommes dont la vocation semble être de vivre retirés à distance pour apprendre à lire dans le flot des événements de la vie du monde ce que d'aucuns appellent les signes des temps. Parmi ces hommes, il y a notamment les intellectuels comme mon invité de ce matin. Lui ne se remet pas d'un événement. La mort héroïque du colonel Beltrame, cet officier supérieur de gendarmerie français connu pour s'être volontairement substitué à un otage au cours de l'attaque terroriste du 23 mars 2008 à Trèbes. Une merveilleuse visite au style même dire de la mort de cet homme, un événement tant et tant ruminé qu'il vient de sortir un livre en forme de conclusion. Seuls les héros et les saints peuvent aujourd'hui nous réveiller. Le temps des héros et des saints, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec comme invité donc Robert Redeker. Vous êtes philosophe, essayiste, auteur donc d'un ouvrage, Les Sentinelles d'Humanité, paru aux éditions des Clés de Brouwer. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de cette radio.
Merci beaucoup d'avoir fait un détour par nos studios. Ce livre dont on va certainement pas mal parler en France dans les médias, du moins on l'espère, ça vous a déjà valu un entretien avec Eugénie Bastier, qui est donc une des figures aujourd'hui du Figaro, mais vous êtes la première radio, me disiez-vous, à faire. On en est très content. Robert Redeker, déjà ça vous va la présentation que je fais quand je savais que vous veniez ce matin, je vous disais il sort de son maquis pour venir nous voir.
Je viens en voisin puisque j'habite dans le Lauragais et c'est à côté. Bon, et il est naturel que cette radio toulousaine soit la première à laquelle je m'adresse pour parler de ce livre ou du thème.
Est-ce que vous vivez un peu à distance, comme ça, un peu caché, un peu retiré?
J'ai toujours vécu à la campagne, toujours à distance, et même quand je travaillais dans une grande revue parisienne, je prenais l'avion ou le train, mais j'habitais dans le sud-ouest.
Voilà, ça dit déjà un peu le personnage ou l'homme que vous êtes. Alors, vous avez écrit ce livre, donc, et vous le dites dès votre propos initial, dès l'introduction, suite à la mort du colonel Beltrame. Ce n'est pas à lui que vous dédiez ce livre, mais à votre mère, je le précise quand même. Qu'est-ce qui vous a autant frappé dans cette mort? Vous parlez de la vertu de la sidération. On commencera par ça. Pourquoi cette sidération?
Parce que tout à coup, la monotonie, ou le ciel gris qui pèse au-dessus de nous, la résignation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle sans doute beaucoup de chrétiens, pour laquelle beaucoup de chrétiens aussi sont tentés, cette résignation s'est déchirée par le geste d'un seul homme. Voilà. Alors, c'est ce qui était attendu, c'est qu'il y ait des violences, des attentats. Ça, ce n'est pas une surprise. Ce qui était attendu, c'est que la gendarmerie, la police agissent normalement dans de pareilles circonstances. Mais ce qui est inattendu, c'est le surgissement par retour. Alors, je ne veux pas dire que le gendarme Beltrame était un saint, mais il y a quelque chose qui a à voir avec la sainteté. Je vais dire dans 30 secondes ce que ça m'évoque. Et le retour aussi du héros. Oui, alors, ce que ça m'évoque, vous parlez de la substitution. Voilà, substituer sa vie à celle de la personne qui allait être tuée, qui était une employée de ce supermarché, me semble-t-il.
Super U, oui.
Super U, voilà. Catherine de Sienne, sainte Catherine de Sienne, a donné le modèle de ce que c'est que la substitution en allant peut-être plus loin que le gendarme Beltrame.
Alors juste avant que vous nous parliez de la substitution, je vous cite « Sidération, un type humain que nous accablions de tous les soupçons, lui préférant son antithèse, l'anti-héros, voire le passant ordinaire ressortait de son tombeau le héros, et avec eux le souvenir de l'ancienne France, et même celui du plus noble d'entre les temps, le Moyen-Âge. » Et après vous citez Jeanne d'Arc, « Arnaud Beltrame ne déchira pas le ciel, se contenta de déchirer le temps, et il s'adressa à nos autres Français comme ses voix s'adressent à Jeanne d'Arc. » Vous allez loin. Vous vouliez nous parler donc de
voilà,
Catherine de
Sienne,
encore une figure de sainte.
Un siècle avant Jeanne d'Arc à peu près, et la substitution, elle l'a pratiquée. Alors elle l'a pratiquée de quelle façon? Elle l'a pratiquée avec un criminel de la pire espèce. Donc pas avec un otage innocent, là. Avec un criminel de la pire espèce qui était condamné au gibet, elle a demandé à Dieu sa grâce. Et en échange, elle offrait à Dieu sa damnation. Vous vous rendez compte? Sa damnation éternelle. Le damné, c'était ce criminel de la pire espèce. C'est lui qui était perdu. La sainteté de Catherine de Sienne, c'est d'échanger sa damnation contre son salut à elle. C'est-à-dire, sa sainteté, c'est de demander à Dieu le salut de cet homme au prix de sa damnation à elle. C'est ça la substitution sainte. Alors, c'est un peu ce que nous avons vu avec le gendarme Beltrame. Donc, sans aller jusqu'à la damnation et au salut. Mais enfin, il échange ce que notre société estime de plus précieux, de plus estime que c'est ce qu'on ne peut pas sacrifier. Il échange sa vie matérielle contre la survie et de cette personne. Et c'est quelque chose qu'il demande. Alors voyez comme c'est très étrange. C'est quelque chose qu'il demande à son bourreau.
Robert Edecker, dans cette première partie, on va faire comme une longue introduction. Je picore au long de votre livre. Vous dites que, enfin, vous lire, c'est d'autant plus frappant, et vous le martelez presque chapitre après chapitre, que, à vous entendre, en fait, c'est un geste qui n'est pas signé de notre époque. Vous avez cette phrase, l'éclipse des héros et des saints est la marque de fabrique du nihilisme. On y reviendra après. Vous réfléchissez en philosophe là-dedans. Vous nous expliquez pourquoi aujourd'hui, en fait, ça nous surprend tant, ou ce geste nous a tant surpris. Et vous laissez entendre qu'aujourd'hui, les nouveaux héros, ce sont donc des pseudo-héros, des pseudo-saints, les stars du sport, du showbiz, principalement les braillards du petit écran devenus depuis peu écran plat, les célébrités et autres vedettes. Vous avez un ton très mordant. Est-ce que vous n'allez pas un peu fort?
Non, pas du tout. Je crois que la sainteté et l'héroïsme, c'est un besoin anthropologique humain. Voilà. C'est un besoin humain très profondément enraciné, qui est enraciné dans notre constitution. Nous avons besoin de figures d'héroïsme et de sainteté, et toute l'histoire de l'humanité, avant même le christianisme, enfin, on se souvient des héros grecs, et sans doute dans les tribus indiennes, d'Amérique du Nord, ou amazoniennes, il y avait des figures de héros. Donc c'est un besoin. Mais en même temps, l'héroïsme est lié au sacrifice. En même temps, notre société ne peut pas supporter ça. Bon, pourquoi?
Qui sont les héros d'aujourd'hui, alors? Décrivez-les-nous.
Je finis mon idée. Bon, pourquoi? Parce que le héros, c'est la gratuité. Il ne va rien gagner à l'affaire. Sans doute aura-t-il la mort. Généralement, c'est ce qui arrive. Donc, c'est le renoncement au moi égoïste tant vanté aujourd'hui. C'est le renoncement à l'épanouissement de ce moi égoïste. Alors les héros d'aujourd'hui, que j'appelle de pseudo-héros ou des héros de pacotille, ceux que l'on présente comme des héros, ce sont au contraire des gens qui, à travers leurs exploits, entre guillemets, vont rechercher la célébrité et l'accumulation d'argent. C'est-à-dire leurs actions sont ordonnées à l'argent. On va regarder des acteurs de cinéma ou des joueurs de football, on va les juger sur la fortune financière qu'ils ont accumulée. C'est pour ça que je dis ce sont de faux héros, puisque la gratuité n'est pas l'enjeu. Cependant, le fait qu'ils soient donnés à admirer et que nous les admirions est un reste, un résidu de la soif du besoin de héros que nous avons. Ce sont de faux héros, mais le besoin est toujours là. Et Beltrame, par son action, est venu nous rappeler ce que c'est que l'héroïsme et les lisières de la sainteté.
Alors, Robert Edecker, il y a un autre élément aussi, je pense, important à poser au début de cette émission, dans lequel probablement beaucoup d'entre nous se reconnaîtront. Vous laissez entendre que Arnaud Beltrame, la France en a parlé, les chaînes d'information, l'ensemble du système médiatique avec lequel vous êtes parfois très, très, très corrosif, mais vous laissez entendre que son péché, puisqu'on est dans une radio chrétienne, en tout cas le mal, c'est qu'on est vite passé à autre chose, qu'on n'est pas allé chercher la raison de son acte, et que dans le fond, aujourd'hui, quand il y a des héros, quand ils sortent la tête, ou quand tout d'un coup ils passent sur nos écrans plats, et vous en citez un autre, Solzhenitsyn, on leur dit rapidement « tais-toi ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, parce qu'en fait, ils sont bien encombrants. Bon. Leur action...
C'est-à-dire, on leur donne la parole, mais jusqu'à un certain point, c'est ça ? On parle d'eux, mais jusqu'à un certain point.
On parle d'eux, hein, surtout. Et on veut les montrer, de façon spectaculaire, mais surtout pas les écouter. C'est-à-dire, surtout pas écouter ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on va reprendre ces deux exemples que vous avez cités, Arnaud Beltrame et Solzhenitsyn. Bon, Solzhenitsyn s'est adressé, l'Occident l'adorait puisqu'il combattait le communisme, mais il s'est adressé à l'Occident dans une célèbre conférence qui s'appelle « Le déclin du courage ». Et il a dit à l'Occident son fait, hein, le déclin du courage. Donc on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas écouter ça. Et parallèlement, Arnaud Beltrame, lorsque les journalistes ont commencé à s'intéresser à sa vie, ils se sont rendus compte que finalement les axes de son service, c'était Dieu et la nation. Alors ça, c'est très embêtant.
C'est pas très à la mode, ouais.
C'est pas très à la mode. Au moment où, sur France Inter, on chante « Elle a cramé la cathédrale » ou « Jésus est un PD », hein, c'est une radio officielle.
Récente émission dans laquelle un chanteur donc, a fait tout un couplet et d'autres sur « Jésus est un PD ».
Jésus est un PD, il est allé plus loin. Au lieu de crucifier, ils auraient dû l'enculer. Enfin, c'était ça le texte. Et si ça passe sur une radio officielle, c'est quand même l'idéologie officielle. Bien, Beltrame.
Radio du service public.
Radio du service public. Bon. Alors vous comprenez que dans un pareil univers, dans un pareil contexte, Beltrame qui parle de la nation, et l'on sait que dans l'idéologie comme ça, officielle, la nation c'est la cause des guerres, ce qui est faux, c'est l'impérialisme qui est la cause des guerres, c'est pas le nationalisme. Et ce sont bien les nationalistes qui sont entrés en résistance, et c'est bien pour la nation que, dans la guerre de 14-18, les Français ont combattu. Bon. Donc, d'une part, la nation est Dieu. Hein, tout ça ne cadre pas avec l'idéologie officielle, donc, Beltrame, tais-toi. Montre-toi, nous avons montré ton image, mais on ne va pas mettre le son.
Alors l'autre chose, dernière chose sur laquelle j'aimerais insister en piochant dans votre livre, c'est la notion de réalité. Vous dites entre autres la chose suivante, le saisissement de la guerre par la télévision annule la réalité du conflit armé, le change en une autre réalité, le déréalise. Le même procédé de déréalisation se met en branle dès lors qu'un héros vient à se montrer. Vous laissez entendre qu'en fait, on n'a jamais autant regardé. On a l'impression de jamais autant regarder la réalité et de multiples réalités dans le monde, en France, dans notre région, etc. Mais qu'il y aurait comme un processus de déréalisation. Quel est-il ?
Oui, c'est le fonctionnement des médias. Alors, je ne suis pas le premier à dire cela, sans faire de... sans chercher à être pédant. C'est un penseur, Paul Virilio, qui a été le premier à s'intéresser à ce phénomène. C'est-à-dire, lorsque quelque chose entre dans les médias...
Vous pouvez nous aider à penser sans être pédant, alors que voilà, allez-y, citer.
Voilà. Quelque chose entre dans les médias, c'est un système de transformation et il en sort un produit. Il en sort une marchandise. La guerre du Golfe, puisque c'est sur la guerre du Golfe que Virilio avait travaillé, au début, c'était CNN, c'était donc au début des chaînes toutes info. La guerre du Golfe a été un produit comme l'acte du gendarme Beltrame a été un produit qu'on a mis à l'étal des chaînes Tout Info pendant quelques jours avant de l'oublier, de le rappeler assez souvent. Alors l'oubli...
Mais pourquoi la déréalisation ? Si on reprend l'exemple du colonel Beltrame, en quoi il nous a été donné à voir et pour autant il y a une forme de déréalisation ? Parce que tout le monde a été touché aussi par la médiation que sont les médias. Donc
Oui, mais c'est clair, on enlève le sens. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. On enlève le sens de ce geste, de cet acte, qui semble comme ça...
Donc il n'a pas vraiment de chair, c'est ça que vous laissez entendre.
Déréaliser, c'est décharner également, oui.
Dernière chose, et ça nous parlera probablement aussi à nous, parce qu'il peut être facile de jeter l'anathème sur les autres. Vous avez un chapitre qui s'appelle « Sainteté et héroïsme contre les bonnes mœurs ». Vous laissez entendre que la société française, la République française, s'est construite autour d'une idéologie bourgeoise, peut-être pas d'une idéologie, mais en tout cas de l'idée qu'il y a des bonnes mœurs et que dans le fond, les héros et les saints viennent par trop déranger ce qu'on appellerait aujourd'hui un ordre bourgeois. Ça peut faire sourire, mais pour vous, la société dans laquelle on est, si l'ordre bourgeois moral, on va dire, est tombé, il y aurait une autre forme de bonnes mœurs. Quelles sont-elles ?
Oui, on voit... Bon, d'abord, c'est pour signifier que le saint et le héros sont des réfractaires. Ce sont des rebelles, de toute manière. Donc, des rebelles par rapport à l'ordre idéologique, intellectuel, dominant, dans laquelle l'hypocrisie ou la fausse conscience ont une place très importante. Alors, la morale, c'est la morale bourgeoise qui n'existe plus. La morale bourgeoise qui a été le ciment de la domination de la bourgeoisie sur la société, mettons, de la Révolution française jusqu'au début des années 60, qui était une morale... hypocritement fondée sur une certaine retenue et austérité. Il faut bien insister sur hypocritement. Et la littérature du 19e siècle, chez Flaubert, chez Maupassant, entre autres, chez Balzac, un peu avant, a bien mis en évidence cette hypocrisie sociale. Bon. Aujourd'hui, cette morale a été bourgeoise, a été renversée, mise cul par-dessus tête, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est l'inverse qui est valorisé. Nous sommes en général, poussés à ce qu'autrefois on appelait le vice. Nous sommes en général poussés à ce qu'autrefois on appelait la goujaterie. Ouvrez un magazine féminin courant, ce sont des leçons permanentes de goujaterie vis-à-vis des hommes qui sont... Voilà. Il y a eu un renversement, mais l'ordre conforme, c'est finalement la même chose. Hein. C'est un renversement. On nous pousse à pratiquer, sinon vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la société, exactement ce qui était interdit jusqu'ici. Alors peut-être va-t-on reculer un peu par rapport à cela. L'affaire Matzneff, tout ça semble montrer qu'il y a quand même des réticences et des résistances qui se font jour, mais je n'en suis pas assuré.
Être un saint, être un conformiste, être un saint ou un bourgeois, voilà une alternative qui ne déplairait pas à Léon Blois. Léon Blois, donc, que vous citez dans votre livre et qu'a cité le pape François.
Que j'aime beaucoup.
Lors de sa première intervention après avoir été élu pape, disant qui n'adore pas Jésus confesse la mondanité du diable. Vous ne l'écrivez pas, mais Léon Blois est un auteur aujourd'hui à la mode. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour réfléchir en philosophe. L'ère du soupçon, l'ère de la déconstruction, de l'anti-essentialisme. Vous dites que nous sommes en plein dedans. Vous allez nous aider à comprendre pourquoi.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le temps des héros et des saints, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Robert Redeker, philosophe essayiste, auteur d'un ouvrage dont on va probablement pas mal entendre parler, tout du moins si on y est un peu attentif, Les Sentinelles d'Humanité, philosophie de l'héroïsme et de la sainteté, paru aux éditions des Clés de Brouwer. Pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, toute l'écriture de ce livre a été motivée par la mort du colonel Beltrame, le sacrifice de ce gendarme français dont on a tant parlé, mais peut-être pas jusqu'au bout, à vous entendre et à vous lire. Alors, vous êtes philosophe, Robert Redeker, nous ne le sommes pas forcément. Et quand on lit votre livre, vous nous aidez en fait à décrypter la pensée dans laquelle nous sommes enfouis jusqu'au cou, dans laquelle nous baignons parfois sans nous en rendre compte. J'ai retenu trois mots, le soupçon, la déconstruction et l'anti-essentialisme. Si on commence par le premier, le soupçon, dites-vous, le soupçon est la peste psychosociale, il est la passion vénéneuse qui s'interpose entre les humains pour dissoudre le lien social. Vous citez justement Albert Camus et son livre La Peste. D'où vient cette ère du soupçon dans laquelle nous baignons ?
Je crois qu'il vient de... Il vient de Karl Marx. Soupçonner toute pensée, toute réalité d'être, même s'il le cache, ou en devant le cacher, d'être au service masqué d'une exploitation des hommes, les hommes par les autres, enfin, ou de la majorité par une minorité exploiteuse qui possède le capital. Alors, en soi, ce n'est pas tout à fait faux. Hein. Les mécanismes de soumission et de suggestion existent. Mais c'est la généralisation du... Je vais donner un exemple. Bon, dans les années 70, 80 et même 90, un sociologue a eu beaucoup, qui s'appelait Pierre Bourdieu.
Vous le citez largement, oui.
Voilà, a eu beaucoup de succès. Et il a passé au crible du soupçon à peu près tout ce qui tenait debout dans l'école, enfin, tout ce qui tenait debout dans nos sociétés depuis longtemps. Bon. Et le soupçon est resté. Il suffit de parler avec des gens dans la rue pour voir une méfiance extraordinaire.
On n'a pas le temps d'en parler, mais vous dites qu'un de ces enfants monstrueux, c'est le conspirationnisme. Oui, mais je propose qu'on ne l'aborde pas parce que ça, on irait trop loin.
C'est la suite de ça. En même temps, c'est développé. Un type de philosophie, puis de pensée plus commune de déconstruction.
Alors expliquez-nous justement la déconstruction, là aussi vous en parlez assez largement. Vous pouvez citer aussi les philosophes qui ont participé à cette déconstruction, et puis quelle différence on peut faire entre soupçon et déconstruction ? Est-ce que dans le fond c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter ?
Je crois que c'est tout à fait lié. Le soupçon, c'est le résidu populaire de la déconstruction qui est quelque chose qui s'est passé dans les sphères intellectuelles après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, à nouveau, sans chercher à être pédant, la déconstruction, ça vient de Martin Heidegger, hein, qui est le premier, la déconstruction de la métaphysique, mais il n'avait aucune idée des suites et des conséquences de ça, qu'il aurait d'ailleurs parfaitement condamné parce qu'il était très traditionnaliste. Bon, la déconstruction de la métaphysique, mais ça signifie que toutes les réalités sociales et idéologiques que nous possédons doivent être, y compris anthropologiques comme la famille par exemple, doivent être déconstruites parce que au fond elles n'ont pas d'ancrage véritable. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la famille, ou qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou une femme? C'est une construction sociale arbitraire, aléatoire, historique, destinée à empêcher notre authenticité de s'exprimer. Donc on a travaillé philosophiquement à déconstruire, et à la fin il ne reste qu'un champ de ruines. Il ne reste que ceci, on va manipuler puisqu'il a été déconstruit, l'humain et le vivant, on va le reconstruire comme on veut, suivant les désirs de chacun et suivant les intérêts hein, les intérêts de quelque chose, enfin les intérêts de groupe.
On y reviendra parce que voilà. ce que vous laissez entendre, c'est que tout ça aujourd'hui est mis en plus au service d'une économie ultra-libéralisée. Alors il y a une figure dont vous parlez aussi beaucoup, c'est donc le philosophe Friedrich Nietzsche. À vous lire, et je vais vous laisser expliciter davantage votre propos. Il y a une ambiguïté chez cet homme, à la fois, si j'ai bien compris, quelque part une saine fascination pour le héros et en même temps une mauvaise compréhension de ce qu'il est vraiment. Expliquez-nous.
Oui, alors par rapport à Nietzsche, je suis toujours dans l'ambiguïté, c'est-à-dire un grand intérêt et une grande admiration pour cet immense philosophe, et en même temps une posture très critique.
Vous parlez de Nietzsche et de Napoléon, par exemple.
Oui.
Prenons l'exemple de Napoléon.
Voilà. Ou même, l'idée de Nietzsche, c'est le surhomme. Voilà. Donc le départ, c'est le héros et le saint sont-ils des surhommes au sens nietzschéen? Eh bien, non. Le surhomme nietzschéen, c'est quelqu'un qui a quitté l'humanité. L'homme est un pont vers le surhumain, dit Nietzsche. Ça veut dire qu'il faut quitter l'humanité. Autrement dit, au cœur de la pensée de Nietzsche, il y a un mépris de ce qu'est l'homme, un mépris de l'humain.
Vous dites même une haine de la vie, en fait.
Et probablement une haine de la vie. D'où le regard étrange de Nietzsche sur Napoléon. Qu'admire Nietzsche chez Napoléon? L'insensibilité. L'insensibilité aux souffrances des autres, l'impérialisme, c'est-à-dire être impérieux, et probablement aussi le sacrificiel. Enfin, par sacrificiel, je veux dire, Napoléon, c'est l'ogre. C'est l'ogre au sens où, chaque année, les femmes de France mettaient au monde des enfants qui allaient être offerts en sacrifice à l'appétit de l'ogre, l'appétit de puissance, de domination. Donc ce que Nietzsche va apprécier chez Napoléon, c'est la volonté de puissance. Mais, en même temps, Nietzsche dit que Napoléon est un héros raté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un héros raté? Chez Nietzsche, ça veut dire premièrement qu'il est encore trop humain, hein, qu'il ne s'est pas élevé au surhomme, et ça veut dire, là, ça va plutôt dans mon sens, ça veut dire que Napoléon est resté trop attaché à son ego, à l'enflure de son ego, qui est l'ego moderne. Ma position par rapport à cela, c'est un peu celle de Beethoven, c'est pour ça que nous l'avons mis à l'écouter, c'est que Bonaparte a effectivement été un héros, Napoléon a été quelqu'un de parfaitement admirable et détestable en même temps.
Alors, en quoi cette réflexion que vous faites sur Nietzsche dit quelque chose de notre temps et de l'atmosphère dans laquelle on baigne jusqu'au plus profond sans s'en rendre compte?
Parce que je crois que Nietzsche, qui a voulu être...
Parce que les stars de foot ou les stars hollywoodiennes, on ne peut pas dire qu'a priori que c'est des surhommes, si?
Non, mais...
On aimerait que ça en soit?
Nietzsche ne les admirerait pas non plus, il les classerait dans la catégorie du dernier homme. C'est-à-dire de l'homme tout petit qui ne voit pas plus loin que son intérêt.
C'est alors, ça, le dernier. Alors pourquoi parler de Nietzsche? Quel lien avec notre époque?
Je crois que Nietzsche a détruit l'homme, en déclarant la mort de Dieu. Il a déclaré en même temps la mort de l'homme.
Et la mort du diable, vous dites.
Et la mort du diable.
La mort trompeuse.
Oui, trompeuse, parce que je crois que... c'est-à-dire, cette mort de l'homme est le terrain sur lequel un homme nouveau, transhumain, et pas surhomme, peut être construit. C'est-à-dire, c'est le terrain sur lequel on veut construire ce transhumain. Donc, le point commun, c'est que le surhomme et le transhumain repose sur la mort de l'homme, sur sa destruction, alors que le héros est le saint, en poussant ce que l'homme possède par essence. Alors on peut revenir sur le concept d'essence.
On va y venir. Alors je vais vous citer si ça ne vous dérange pas. Les héros et les saints sont un paradoxe, exception unique. Ils n'en reconduisent pas moins l'ensemble de l'humanité, le troupeau humain vers son essence, voilà. Comme s'ils étaient les pâtres, ils en étaient les pâtres spirituels, vous dites. Et puis vous ajoutez, héros et saints ramènent les hommes à un bercail qu'ils ont depuis toujours quitté, ou en tout cas depuis longtemps à vous lire. Justement, vous parlez de l'anti-essentialisme. Alors pour ceux qui sont un petit peu philosophes, on pense à Sartre, hein, l'existence précède l'essence, quand les chrétiens confessent que l'essence précède l'existence. L'anti-essentialisme, qu'est-ce que c'est et là aussi, pourquoi on baigne dedans?
L'anti-essentialisme, c'est l'idéologie dominante et quasi obligatoire de tous les intellectuels depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez cité Sartre, mais je crois que ça remonte à Marx. Il n'y a pas de nature humaine. Un marxiste comme Althusser l'a
proclamé. C'est ça qu'on entend par essence.
Voilà. Essence, ça signifie nature. En philosophie, il n'y a pas de nature humaine. Bon, ça signifie que l'on peut faire ce que l'on veut avec l'homme. Mais c'est un préjugé, parce qu'il n'y a aucune démonstration de la non-vérité de l'essence. Il n'y a aucune démonstration qu'il n'existe pas de nature des choses ni d'essence des choses. C'est un préjugé.
Alors c'est un préjugé qui nous conduit loin, pour faire écho à les propos de, non pas d'Isabelle Honnel, mais l'interview de ce matin, pardon je vous coupe, hein, mais c'est à vous lire, c'est aussi aujourd'hui ce qui fait que demain, on va probablement légaliser la gestation pour autrui, quand c'est pas déjà le cas indirectement en France, puisque vous dites, c'est avant tout, c'est une manière de réduire l'homme, un animal semblable aux autres, sans destinée. Il n'y a plus de frontières ontologiques, alors, puisqu'il n'y a plus d'essence.
Voilà, il n'y a plus de frontières avec les autres êtres de la création, c'est-à-dire les animaux et les anges, à tout le moins. Il n'y a plus de frontières non plus avec les machines ou les appareils. Donc, la disparition de ces frontières que nous pouvons appeler des dignités, on peut dire deux mots sur la dignité, la disparition de ces frontières, c'est la possibilité de créer des, non plus des hommes, mais des trans-hommes, ces trans-hommes qui nous remplaceront. Alors j'insiste sur l'idée de dignité. Bon, l'idée de dignité permet de combattre l'antispécisme, par exemple.
Alors l'antispécisme, c'est cette nouvelle forme d'antiracisme, et l'antispécisme, ce serait de considérer qu'il y a différentes espèces, laissant entendre derrière que voilà, il y a une frontière, on va dire existentielle, enfin ontologique, comme vous dites, une frontière de nature en fait entre l'homme et les autres êtres vivants.
Voilà, et les antispécistes refusent cette idée, ce qui revient à tout.
On en avait il y a pas très longtemps à l'antenne qui nous expliquait que même les chimpanzés avait des rites funéraires.
Tant qu'on ne définit pas les mots et les concepts, on peut dire ce qu'on veut.
Allez-y, continuez.
Bon. Je crois qu'il y a des dignités. Voilà. Alors, c'est Pascal qui parle de dignité. Une dignité, c'est une place dans un ordre. Bon. Une place dans un ordre cosmique. La dignité de l'ange, reprenons Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà. La dignité de l'ange, la dignité de la bête, la dignité de l'homme. La dignité, c'est la place, mais la façon, c'est-à-dire, on pourrait très bien répondre à la violence contre les animaux d'une façon beaucoup plus intelligente que les antispécistes, en disant que tout animal est digne puisqu'il a sa place dans l'univers et qu'il doit être respecté par là. Les dignités sociales, dans la pensée de Pascal, c'est aussi lié au respect. Si vous voulez. Donc, en même temps, l'idée de dignité permet de conserver la notion d'essence et d'empêcher les manipulations sur les êtres pour les transformer en autre chose. Le nom reste homme, mais la chose n'est plus la même, si vous voulez. Alors, juste un mot pour finir sur ce thème. Bon, donc il n'y a aucune preuve, aucun argument solide contre les sens, contre les essences. Mais pourquoi ce préjugé a-t-il été partagé par l'ensemble des philosophes et des intellectuels après la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est une arme de guerre contre ce qu'on appelait l'idéologie bourgeoise, mais aussi contre, estime-t-on, le capitalisme, contre les différentes formes de domination. Bon, et cette arme de guerre, sans aucune preuve, finalement, se retourne contre l'homme.
Le héros et le saint restaurent un cosmos autant qu'ils replacent l'homme en son lieu dans l'univers. On va faire une deuxième pause, Robert Redeker, et puis on va parler un peu plus des héros et des saints. Vous parlez de l'armée française pendant la guerre de 14. Ça surprendra peut-être certains, laissant entendre que ça, c'est une figure de héros. Et je dis bien, vous parlez de l'armée française, de tous ceux qui se sont battus, et pas forcément de ceux qui les ont commandés. Voilà. Et puis vous avez cette phrase, où c'est, je crois que c'est le titre d'un chapitre, parlant indirectement de la sainteté, l'impossible et ce qui arrive. Robert Redeker, vous serez aussi le 6 février prochain à 20h30 au couvent des Dominicains à Toulouse, invité par Face à Face. On fait une courte pause et on vous retrouve.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, la 9e symphonie de Beethoven, à qui on a coupé un peu la chic, mais c'est pour retrouver Robert Redeker pour cette émission, donc le temps des héros et des saints. Robert Redeker, je rappelle, vous êtes philosophe, essayiste et auteur, donc Les Sentinelles d'Humanité, paru aux éditions des Clés de Brouwer. Dans le temps qui nous reste, il ne nous en reste pas beaucoup, j'aimerais donc maintenant que vous nous parliez davantage des héros et des saints. À propos des héros, vous parlez de la Première Guerre mondiale. Alors ça en surprendra peut-être certains, voire même ça pourra peut-être choquer. Le titre de votre chapitre, c'est « Un héros collectif, l'armée française dans la guerre de 14 ». Pourquoi, selon vous, Cette guerre, en fait, a fait de l'armée française, on va dire, globalement un héros.
Parce que tout un peuple, quand je dis peuple, c'est limitatif. Certaines personnes sont restées à Paris pour encourager les combats. Ceux de l'arrière, comme disait avec mépris Pierre Teilhard de Chardin,
avait connu la guerre de 14,
qui avait connu et qui a vu dans la guerre de 14 une expérience quasi mystique de la liberté et de Dieu, d'où la nostalgie. Il a écrit un texte très beau qui s'appelle La nostalgie du front, dans lequel il a écrit en 1917, dans lequel il explique que...
Donc Teilhard de Chardin, grand théologien. Hein,
grand théologien et penseur.
Pas apprécié de tous, mais grand théologien.
Et paléontologue très important. Je crois que quand même Pierre Teilhard de Chardin a contribué fortement à ce que l'Église reconnaisse l'évolution. C'est pas rien.
Alors, revenons à la guerre de 14. Voilà. Les héros forment le sol de la patrie. Vous dites, nous marchons sur eux. Les héros forment le sol et le ciel de notre imaginaire politique. Et puis à un moment, vous avez aussi une phrase. Vous parlez de l'Église et du monument aux morts, laissant entendre que dans une société où Dieu est mort pour beaucoup, le monument aux morts et ce monument de la guerre de 14 qui est presque dans tous les villages, c'est comme ça fait écho en fait au sacrifice du colonel Beltrame, à vous entendre.
Oui, alors je crois que d'abord dans une société de plus en plus déchristianisée, le monument aux morts joue un peu l'un des rôles que jouait l'Église en tant que bâtiment au Moyen-Âge, c'est-à-dire un lieu dans lequel ou devant lequel on se rassemble pour traverser le temps. C'est Duby qui compare l'édifice qu'est l'Église ou la cathédrale à une sorte de nef dans laquelle le peuple de Dieu se rassemble pour traverser les tragédies de l'histoire et les malheurs et accoster aux rives bienheureuses. Bon, le monument aux morts a un peu ce rôle-là. Il nous rappelle que d'autres se sont sacrifiés, non pas pour nous, pour la nation. C'est très différent. C'est-à-dire aujourd'hui, l'on veut faire croire que c'est pour nous que les gens sont morts, que c'est pour nous qu'ils sont allés à la tranchée, au front. Non, c'est une manipulation de la mémoire.
Attends, on meurt toujours pour quelqu'un, on meurt pas pour des idées.
Mais la nation, c'est pas une idée. C'est une continuité. Donc, on meurt pour que la nation, qui est une réalité imaginaire, pas une idée, une réalité imaginaire, et l'imaginaire est très important, continue, si vous voulez. Et donc, le monument aux morts, on se rassemble, et puis le rappel des noms est très important. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils fussent enterrés. Bien entendu, ils sont enterrés. Mais les noms, c'est la présence des corps à l'air libre. D'où l'idée que on n'a jamais ces Faulkner on n'a jamais autant eu la présence des cadavres après la guerre de 14 qu'avant la guerre de 14. Et c'est la présence sous la forme de noms gravés sur la pierre des monuments.
Robert Redeker, je vois le temps qui passe. J'aimerais qu'on parle un peu des saints. À propos des saints, donc vous citez plusieurs saints, ou saintes en l'occurrence. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila. Vous faites quelques nuances entre le héros et le saint. Vous laissez entendre que ce n'est pas tout à fait la même temporalité. Deux régimes de la temporalité percent dans cette approche. Le héros, ça serait, on va dire, le surgissement d'un acte héroïque, quand la sainteté, serait une, j'allais dire, une longue course d'endurance, mais je ne retrouve pas une citation qui serait plus proche de votre pensée. Expliquez-nous, oui, la sainteté demande une grande persévérance, c'est un dur labeur dans la durée. Il faut, pour toucher au but, surmonter d'innombrables épreuves, vaincre une infatigable adversité. Et vous citez Sainte Thérèse d'Avila. Pourquoi ?
Oui, alors, il est évident que je préfère les saints aux héros, bien que, dans le cas de Jeanne d'Arc, la personne est la même personne et les deux. Voilà. Ce qui frappe dans la sainteté, c'est un rapport au temps tout à fait différent de l'héroïsme, hein, bien qu'il y ait de l'illumination. Et bon, quand on lit Sainte Thérèse d'Avila, on se rend compte, elle le dit elle-même, qu'il y a des moments où elle échappe au temps. Par exemple, quand elle raconte sa visite aux enfers, ou bien quand elle raconte son enlèvement par Jésus, où elle voit au paradis son père, sa mère. Donc elle échappe au temps à ce moment-là. Mais il me semble que le héros, comme Beltrame, c'est l'éclair, et qu'en dehors de cet éclair, il peut même avoir une vie, c'est arrivé, plus qu'ordinaire, même mauvaise, tout à fait, peut-être méprisable. Et à un moment de sa vie, voilà, c'est le diamant. À un moment de sa vie, tout est sacrifié. Voilà, il s'oublie, tout est sacrifié. Tandis que dans la sainteté, le sacrifice est continu.
Quand l'héroïsme est instantané, la sainteté durera, vous dites.
Oui, c'est
puis
ça.
Vous avez aussi cette phrase, le saint se fond dans une vie universelle qui s'appelle Dieu, le héros se fond dans une autre, le rang inférieur qui s'appelle l'histoire. Dans le temps qui nous reste, Robert Heidegger, presque les derniers mots de votre livre, et ça fera écho à mon introduction et à ce que je disais de vous avec un sourire dans la voix, vous parlez du mot « résistance ». Ça peut paraître fort aujourd'hui, d'aucuns peuvent se dire que nous ne sommes pas tant en guerre que cela. Pourquoi ce mot « résistance » ? Je disais, on a l'impression quand vous venez à cette émission que vous sortez de votre maquis. L'heure serait-elle à la résistance ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, résistance, c'est essayer de penser, de rappeler des choses en n'ayant à l'esprit que toutes ces Bernanos, hein, dans la France contre les robots, que tout le type d'existence qui est le nôtre aujourd'hui, c'est une conspiration contre la vie intérieure. Voilà. Et les héros et les saints représentent la vie intérieure. Donc c'est finalement résister à cette conspiration générale contre la vie intérieure qui caractérise notre société. Voilà le premier point. Et je voulais aussi en dire un second, c'est la notion de sentinelle. C'est-à-dire, on aurait pu dire, oui, voilà, les
pour
héros...
Pour reprendre le titre de votre livre, voilà, hein, les sentinelles d'humanité.
Les héros et les saints sont les gardiens de ce que nous avons d'humain, de ce que nous avons de très humain. Mais dans l'idée de gardien, il y a quelque chose de coercitif, si vous voulez, de coercitif et peut-être même de militaire ou de policier. Dans la République de Platon, il y a les gardiens de la cité. Vous avez les philosophes, puis les gardiens, puis le peuple. Bon. Et c'est évidemment extraordinairement coercitif. L'idée de sentinelle, c'est l'idée de regard. C'est l'idée de regard vers l'avenir et vers le passé. Et donc, cette notion de coercition qu'on a dans les gardiens, qui peuvent être les chiens de garde, cette notion de coercition est tout à fait absente. Et donc, ça laisse la liberté. Dire, la sentinelle vous rend à votre liberté, alors que le gardien vous enferme.
En tournant nos regards vers eux, donc les héros et les saints, et donc le colonel Beltram, en essayant de nous accrocher à eux comme des ancres arrimées au ciel, nous résistons à notre transformation en autre chose que ce que nous sommes. Les héros et les saints sont la réserve d'histoire dans laquelle puiser pour maintenir l'humanité de l'homme. Merci beaucoup Robert Edecker d'être venu ce matin au micro de Vivante Église et de Radio Présence pour nous parler de votre livre « Les Sentinelles d'Humanité » paru aux éditions des Clés de Brouwer. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent venir vous écouter pour une conférence et ils peuvent venir de toute la région pour ça. Faut s'y prendre un peu à l'avance, c'est tout. Jeudi 6 février, ça sera chez les Dominicains à Toulouse. Jeudi 6 février, 20h30. Vous êtes l'invité de l'association Face à Face. Merci beaucoup.
Merci et merci pour votre attention.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.